1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B. On est ensemble pendant 1h10, de 16h30 à 17h40, comme tous les jours du lundi au vendredi. Rediffusion de 8h30 à 9h40 du mardi au samedi matin. Et puis, playlist et réécoute sur canalb.fr. Quelques nouveautés. Notre disque d'or de la semaine, le nouvel album pour orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, qui seront en interview dans l'émission vendredi. Et puis aussi, on entendra un nouveau single pour le groupe Biche. Nous écouterons des extraits des albums découvertes Ferrarock cette semaine, ceux de Oh Oh et puis de Kid Is High, Bass Bass et Cheeky. On reviendra sur les deux belles soirées des 15 et 16 novembre prochains à l'Antipode sous le nom de Cool Thing, où vous retrouverez le 15 Enola Gay et Tapir, et puis le 16 Knives et Totoro. Et puis avant ça, Plein les Poches numéro 54, dans lequel Sozy Globaille nous parlera des sources par Marie-Hélène Lafont, paru au livre de poche. Et puis on reçoit dans quelques instants le réalisateur Louis Anquet du documentaire Un Pasteur, l'histoire de Félix, un jeune berger plutôt mélancolique et peu bavard qui mène une vie hors du temps dans un monde fait de montagnes et où la menace rôde en la présence pas toujours visible du loup. Il est à voir ce film documentaire très chouette dans le cadre du Mois du Doc. C'est porté en Ille-et-Vilaine par Comptoir du Doc. Toute la programmation sur comptoirdudoc.org. Et on commence avec une vérité assez née il y a quelques 7 ans, il me semble, si j'ai bien compté, par un jeune enfant, c'est Anatole, qui était bien clairvoyant à l'époque. Bonne émission.
Bonsoir à tous, je suis Donald Trump.
Bonsoir Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique? C'est bien ou c'est pas bien?
C'est bien.
Est-ce que vous êtes un grand président américain?
Oui.
Est-ce que vous êtes très riche?
Oui.
Est-ce que vous êtes beau?
Non, moche.
Est-ce que ce sont vos vrais cheveux?
Non.
Est-ce que c'est votre vraie peau?
Non.
Est-ce que vous ressemblez vraiment à un canard?
Non.
À quoi vous ressemblez?
Donald Trump.
S'affiche le monde que le code semble.
Code, nouveau titre pour le formidable groupe pop français Biche, un nouveau extrait d'un prochain album qui arrivera lui en février, il y a le temps, on les entendait à l'instant nous parler d'un monde tout connecté où on a un peu l'impression de perdre contrôle face à ce monde perçu à travers les écrans. Bah oui, ça pouvait répondre à la nomination, à l'élection en tout cas, à la présidence des États-Unis de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Donc on poursuit avec les redoutables et fantastiques orchestres tout puissants Marcel Duchamp, une fanfare instrumentale, mais aussi avec de très belles paroles, un orchestre on dira, à qui doit autant l'ambiance du bel orchestre Polyrythmo de Cotonou du Bénin, et puis à l'artiste révolutionnaire français Marcel Duchamp. On écoute extrait de l'album Ventre Unique qui sort sur le label Les Disques Bongo Joe vendredi, et on retrouvera d'ailleurs un des membres du groupe en interview dans l'émission Le Grand Tout. Il sort sur le très bon label Les Disques Bongo Joe, à suivre Tout Cassé, et puis ensuite on ira en montagne prendre un peu l'air. Ça fait du bien, mais ça peut faire peur un peu quand même. On évoquera le film Un Pasteur de Louis Anquet en sa présence, à voir pendant le mois du doc.
Vide et creux et rien là tout brisé. We'll be right back.
dans la page culture de l'émission Le Grand Tout aujourd'hui sur Canal B. J'ai le plaisir de recevoir Louis Anquet. Bonjour Louis.
Bonjour Yann.
Qui est réalisateur et qui a écrit et qui aussi a la prise de vue, tout en fait, dans ce film Un Pasteur, un film documentaire qui est ton premier film documentaire, ouais. Même si tu as participé à d'autres films, notamment auprès d'un réalisateur quand même assez célèbre, Sébastien Lifshitz, ouais. Autour de Petites Filles par exemple.
Voilà, j'ai assisté Sébastien sur pas mal de ses derniers films ponctuellement, parce qu'il travaille avec plusieurs assistants, mais sur Petites Filles, sur Adolescente, c'est le film sur lequel j'ai le plus bossé, et sur son dernier film également, Madame Hoffman, qui était au cinéma il y a quelques mois.
Et là, il y a ce premier film, donc 1h10... de thriller presque à la montagne, on est dans les Alpes, on est où exactement?
Alors ce film, je l'ai tourné à la frontière entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, entre les gorges du Verdon et la vallée de l'Ubaye. Pour la partie qui se passe à la montagne dans les Alpages, c'est dans la vallée de l'Ubaye.
Et on y suit Félix, il est berger. Pasteur, il préfère le terme, on va voir pourquoi, il préfère ce terme peut-être. Il ne parle pas beaucoup, le film Un Pasteur est assez, assez avare de paroles, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des histoires quand même qui nous apparaissent comme ça. Une vie hors du temps peut-être, la montagne est absolument splendide, tu la filmes de manière incroyable, on la voit se détacher parfois dans le brouillard, on la voit de loin, on la voit d'en haut, on est en haut avec Félix, on est en bas, on la contemple, et on a quelques menaces comme ça qui entourent les pasteurs. Félix n'est pas le seul personnage du film, c'est le personnage principal. Tu l'as rencontré de quelle manière, Félix ?
Alors, au tout départ de ce film, il y a le retour du loup dans le sud-est de la France. Et moi, j'avais envie d'aller collecter une parole de gens qui étaient exposés à son retour et qui en souffrent. Mais pas, je voulais pas raconter les dommages matériels, mais plutôt la détresse qui est causée chez les éleveurs et les éleveuses qui est causé par le retour du loup et le stress que ça engendre, des gens qui font des cauchemars, parfois des dépressions, qui veulent arrêter un métier, qui font pourtant un peu qui se transmet souvent dans les familles depuis des générations. Et en fait, via la Confédération Paysanne du Var, j'ai pu rencontrer plusieurs éleveurs et éleveuses de cette région et en allant à leur rencontre, un peu, voilà, en apprendre plus à ce sujet. Et c'est au cours de cette première enquête, je dirais, que j'ai rencontré Félix et Francis. Un jour, je suis arrivé chez eux. Et là, j'ai tout de suite été très frappé par Félix, par sa beauté, mais aussi par son mystère, par une espèce d'aura, quelque chose voilà, de très cinégénique, mais aussi au-delà de l'image de cinéma, j'ai tout de suite trouvé que c'était un jeune homme bouleversant et ça a piqué ma curiosité.
Il y a quelque chose d'un peu christique en fait chez lui finalement.
Bah il a en tout cas je crois une dévotion qui est impressionnante à son métier et il en retire une sorte d'élévation spirituelle. Enfin c'est quelqu'un qui voilà qui dans la manière qu'il a de se dévouer corps et âme à ce travail à trouver sa place dans le monde et à donner du sens à son existence. Et donc voilà, c'est plus qu'un métier, c'est quelque chose de très profond, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être au monde.
Pour autant, le loup n'est pas le seul ennemi, il n'est pas la seule menace qui entoure les brebis, les agneaux, les agnelles. Un extrait du film Un Pasteur de Louis Anquet.
Bah, la montagne, quand même, elle est grande. Elle a porté plus. Là, un troupeau comme ça, elle peut le porter, quoi.
Bah, elle a porté plus, mais... Il y a quand même une évolution climatique qui fait que, moi je le vois depuis que je viens, hein, et il y en a beaucoup qui disent la même chose, il y a moins d'herbe, c'est sec plus rapidement, les brebis elles courent beaucoup plus au quartier d'août, des choses comme ça quoi. Toi tu veux augmenter le nombre de brebis, tu veux avoir plus d'agneaux au printemps. Bon, il y a eu jusqu'à 2000 brebis ici, c'est vrai, peut-être même un peu plus, mais enfin moi je pense que c'est pas... une bonne chose de continuer à en mettre autant que ça quoi. Après c'est pas impossible puisque il y en a qui continuent à charger les montagnes quoi qu'il arrive et puis ça passe quand même parce que c'est que 3 mois dans l'année puis que mais sur un long terme ben ça peut provoquer une dégradation de la montagne hein. Ça se verra pas du jour au lendemain, ça c'est sûr.
On entend bien qu'ils sont aux prises à une adversité multiple, en fait, ces pasteurs-là. Et ça donne des cauchemars, tu le disais il y a quelques instants. Et justement, j'ai envie d'amener là l'autre des ennemis principaux hein, de ces pasteurs-là, le loup quand même, qu'on voit, mais qu'on ne voit pas vraiment comme on voit les choses. Et on ne sait pas si on est dans le rêve, le cauchemar ou la réalité. Il y a un procédé que je ne veux pas dévoiler, mais qui est extrêmement intéressant pour montrer l'apparition de ce loup. D'abord, il est seul, il est solitaire, et puis on en voit trois à un autre moment. Ils vont faire des massacres dans les troupeaux, une vingtaine d'agnels comme ça qui sont mangés, ou pas, juste égorgé. Et puis donc on revient à ça, cette façon de filmer particulière du loup, elle t'est venue comment, pour illustrer le cauchemar justement?
Bah en fait ces images, c'est pas moi qui les ai filmées, c'est des images qu'on m'a confiées, que en fait m'ont fait découvrir Félix et Francis en premier, et qui ont été tournées, du coup je vais un peu les dévoiler,
ouais, un peu quand même.
Mais qui ont été tournées par un éthologue suisse qui s'appelle Jean-Marc Landry, et qui a fait des observations nocturnes d'interaction entre des loups et des troupeaux de brebis, et entre des chiens de protection et des loups, et qu'il a des observations qu'il a pu faire grâce à des caméras thermosensibles. Donc, qui permettent d'accéder à un monde invisible qui est celui de la nuit. Et en fait, ces caméras ont la capacité particulière de faire apparaître les corps chauds en brillance. Et du coup, les paysages sont obscurs et on voit dessus, on peut se déplacer comme des spectres. Voilà tous les êtres vivants dont la chaleur du corps les fait apparaître de manière un peu fantasmagorique. Moi, j'ai d'abord été très frappé par la beauté de ces images. Par leur caractère assez onirique, et je trouvais ça intéressant dans un film, un documentaire d'observation, de rompre un peu avec le naturalisme du documentaire et d'amener cet élément onirique. Et du coup voilà, dans le film c'est un leitmotiv qui nous permet aussi d'accéder un peu au monde intérieur du personnage, et ça lui donne au film peut-être ce caractère un peu thriller ou presque un peu film de monstre, avec un comme ça un espèce d'ennemi invisible qui n'apparaît que la nuit de manière brillante.
D'autant plus que ces apparitions-là sont soutenues par la musique de Julien Ribot, qui vraiment participe à cette impression qu'on a affaire à un documentaire de thriller. En fait, il y a du suspense, il y a du mystère, il y a de la tension. Cette musique-là, Julien Ribot, tu l'as proposée directement, ou c'est toi qui l'as un peu orientée sur la manière dont tu voulais que...
On a vraiment travaillé. Bon, moi, je suis pas musicien, donc j'ai pas composé la musique, mais on a vraiment beaucoup travaillé ensemble avec Julien. Moi j'avais des idées assez claires, j'avais travaillé d'abord, j'avais monté avec des musiques de référence que j'ai fait écouter à Julien, et on a réécouté beaucoup de musique ensemble. On a écouté John Cage, on a écouté Bach, on a écouté Ennio Morricone, on a écouté de la musique concrète, et puis ensuite on a écouté des instruments particuliers parce qu'on voulait que toute la musique du film soit jouée avec des instruments déjà qu'on peut jouer avec les mains. Je voulais pas de machine, et je voulais que ce soit des sonorités qui rappellent un peu les matières qui étaient dans le film. Donc on a utilisé beaucoup d'instruments avant qui étaient tous en bois. On a utilisé des percussions qui étaient en cuir. On a utilisé un lithophone qui est un instrument à percussion en pierre, mais dont on a un peu détourné l'usage en frottant des éléments ensemble. Et en fait, les bruits de frottement des pierres créent une espèce de nappe qui pourrait ressembler à du synthé, mais en fait, voilà, c'est des choses qui sont faites avec les mains. Et donc, c'est une musique comme ça qui a été pensée de manière à ce qu'elle vraiment soit organiquement en lien avec l'image, avec ce qui se passe dans le film, mais aussi qu'elle soit une voix en plus. Comme c'est un film, tu l'as dit, qui est assez peu bavard, Félix ne parle pas beaucoup, il est assez réservé dans la vie, donc le film est à son image, et donc j'avais besoin de trouver des manières, enfin des choses de grammaire de cinéma qui nous permettent un peu d'accéder à lui, de créer de l'empathie, et donc ça passe notamment par la musique. Ouais.
Et on entend aussi beaucoup, évidemment, les clochettes qui entourent
les tintements des cloches du troupeau. Ouais.
Ouais, ouais. Et ça se mêle très bien avec la musique aussi.
Thank you.
En novembre, eh bien, le cinéma documentaire est à l'honneur. C'est le mois des films documentaires. C'est Comptoir du Doc, en Ille-et-Vilaine, hein, qui vous propose pas mal de projections de films, notamment celui de Louis Anquet, notre invité aujourd'hui, Un Pasteur, un documentaire peut-être qui peut paraître un peu sec. Mais en fait non, parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans le film. Il y a des difficultés, j'imagine, peut-être à la réalisation, la prise de vue. Il y a des moments dangereux ou quoi, quand tu vas marcher sur les sentiers comme ça, accompagnant Félix et les troupeaux, et puis les chiens aussi. On parlera des chiens peut-être. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était un peu effrayant?
Moi, je peux pas dire qu'il y ait vraiment eu du danger concrètement, mais en tout cas, c'est très éprouvant et c'est difficile. De toute façon, faire un film, c'est difficile pour voilà, plein de raisons. C'est difficile parce que c'est une charge cérébrale intense, qui dure des années. Il faut garder le désir et la flamme allumée de raconter une histoire aussi pendant des années. Moi, ce film-là, en particulièrement, il m'a pris 4 ans à faire. Le tournage s'est étalé sur 2 ans. Et il y avait en plus toutes les difficultés d'un tournage en haute montagne, dans des endroits très reculés, où il n'y a pas d'électricité. Où on pouvait accéder que à pied, donc on montait quand même avec Elton, l'ingénieur du son, Elton Rabino, des sacs à dos qui pesaient 17 kilos à peu près. On devait marcher 5 heures pour rejoindre les alpages, et une fois qu'on était en haut, on pouvait filmer jusqu'à ce qu'on ait plus de batterie ou qu'on ait rempli les cartes mémoire, qu'on avait en nombre limité parce que c'est assez lourd et qu'on pouvait pas en transporter trop. Et du coup, au moment, il fallait redescendre, et donc il y a eu des moments où voilà, c'était un peu frustrant parce qu'on devait s'arrêter de filmer parce qu'on avait plus de batterie, on serait bien resté un peu plus. Et aussi, après, nous-mêmes, comme Félix dans le film, on était exposé aux éléments, à la pluie, au fait qu'après le soir, il faut réussir à sécher ses vêtements pour pouvoir repartir en tournage extérieur, donc il faut être très équipé. Moi, je suis pas du tout montagnard, et du coup, les premiers tournages, j'étais sous-équipé, j'avais froid, j'avais une veste qui était pas imperméable, enfin, il y a plein de galères comme ça, mais
La poésie se dégage de toute façon de ce film. On le voit d'ailleurs, Félix, être dans son lit comme ça avant de se coucher avec un livre de poésie. Il vient d'où ce livre en fait dans la vie de Félix?
Alors,
Goût pour la poésie et le fait
ce goût pour la lecture en général. Après, c'est pas forcément un grand lecteur de poésie, mais c'est un grand lecteur tout court. Et le temps qu'on a quand on est là-haut et qu'on est très seul permet de se plonger dans des livres. Donc ça, il le fait beaucoup naturellement. Et ensuite, le poème qui apparaît dans le film à la fin, c'est un poème qui s'appelle Le Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa, dans un recueil qui porte le même nom. Et c'est un poème que je savais qu'il avait dans sa bibliothèque, un recueil, je savais qu'il l'avait lu, mais moi j'étais aussi tombé dessus parce que je lisais beaucoup de tout ce qui me tombait sous la main autour du pastoralisme quand j'écrivais le film, et ce texte-là m'était resté parce que je trouvais qu'il lui allait particulièrement bien et qu'il permettait de dire plein de choses que lui ne disait pas avec ses mots, mais que c'était une manière très juste de s'approcher de lui. Et du coup, je lui ai proposé qu'à la fin du film, on l'incluse dans la voix off. La voix off qui n'existe qu'à la fin du film, sinon il n'y a pas de voix off dans le film. Et à la fin, c'est cette lettre qu'il écrit et dans laquelle il cite un passage du poème. Et donc, on l'a fait, on a eu cette idée ensemble, quoi.
On l'entend dire, Félix, le troupeau, ce sont mes pensées. Bon, vous entendrez.
Voilà, ça lui va très bien particulièrement.
Le tout dans le film Un Pasteur. On pourrait croire qu'il est seul, toujours, Félix. Non, parce qu'il est avec son troupeau, parce qu'il est avec les chiens qui l'accompagnent pour guider les bêtes. Et puis aussi, il y a son père. Et puis aussi, il y a quelques amis. On les retrouve notamment à un moment de communion, un petit peu. C'est le matin, j'ai l'impression. Ou le soir, peut-être.
Quand ils sont autour du feu.
Il fait nuit et ils sont autour du feu.
C'est un soir pendant la transhumance. Et c'est un soir où ils ont allumé un feu pour se réchauffer après le dîner. Et puis, spontanément, ils commencent à chanter autour du feu. Ouais. C'est la sœur de Félix, Lucie, qui chante à ce moment-là.
Au début, j'ai l'impression que c'est presque un chant religieux qu'ils sont en train de faire. Alors évidemment, je me rends compte assez vite que c'est pas le cas. Et je me dis, non, c'est une chanson qu'ils ont inventée, qui parle d'eux-mêmes. Bon, on écoute la version originale de la chanson, et puis on en reparle un tout petit peu après avec Louis Anquet.
Se moque de nos misères, là-haut, là-haut. si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tous nos troupeaux vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies, mais d'abord il nous faut parler.
Non, ce n'est pas un extrait de la bande originale du film Un Pasteur de Louis Anquet, mais elle est chantée, cette chanson, par ce regroupement. C'est la sœur de Félix qui
voilà,
chante.
Voilà, c'est la chanson, donc les voleurs d'eau d'Henri Salvador, qui est un chant partisan, paysan, inspiré d'un autre chant en fait, d'Amérique du Sud, qui a été traduit en français par Henri Salvador. Et c'est une chanson dans laquelle ils te reconnaissent. Et tu disais qu'il y avait un côté un peu... religieux, et je pense que c'est parce que la sœur de Félix, elle chante dans une chorale, donc il y a peut-être un aspect un peu gospel dans la manière dont il l'interprète, mais ouais, c'est une très belle chanson qui parle de paysans, de pêcheurs en fait, dont la construction d'un barrage menace de faire disparaître l'endroit où ils vivent, et c'est une manière, je crois, pour eux un peu allégorique de parler de même de leurs conditions, quoi. Que eux, il n'y a pas de barrage qui les mène directement, mais le plus grand ennemi aujourd'hui des bergers, c'est avant le loup, c'est le changement climatique.
On l'entendait tout à l'heure dans l'extrait que je proposais du film Un Pasteur. Alors, c'est un film qui est d'une beauté folle, hein, je le répète. Si vous aimez déjà la montagne, vous l'aimerez encore plus. Si vous ne l'aimez pas, eh bien, comme disait Jean-Paul Belmondo dans. Non, je ne vais pas vous le dire, mais bon, vous voyez, à peu près. Un film d'où se détache quand même de la tristesse, de la résignation un petit peu, et puis une fatigue aussi, j'ai l'impression, chez Félix. On peut bien le comprendre avec tout ce qu'on a pu dire sur les menaces du loup, du changement climatique. Les vautours s'en mêlent, mais bon, là, ils arrivent quand le travail est déjà fait par les loups. Et puis on voit un moment où il va aller fleurir un peu l'espèce de tombe qu'il a pu faire pour des carcasses de brebis, pour les animaux qui ont été tués par les loups. Et ça c'est très fort, ce moment-là.
Bah c'est un film qui est teinté de mélancolie, parce que à l'époque où j'ai rencontré Félix, il était assez mélancolique. Il traverse une période un peu dure, je crois, avec cette charge de devoir reprendre le troupeau de son père qui allait partir, et puis c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire, hein, c'est montrer qu'à la fois c'est un métier qui peut être très dur, très harassant, une vie très austère, ascétique, voilà, de dévotion, et qui n'est pas qui récompense pas beaucoup les gens qui suivent ce chemin-là, mais que pour autant c'est aussi une source de plénitude, et c'est un endroit où je crois que pour Félix opère une forme d'une quête d'équilibre, et dans laquelle, en fait, une vie dans laquelle il trouve aussi beaucoup de joie, et il trouve du sens. Et donc c'est un peu les deux aspects que moi j'ai eu l'impression de voir et que j'ai essayé de retranscrire dans le film de cette vie de pasteur.
Une fois que le film est terminé, il n'est sans doute pas terminé, parce qu'après il va falloir faire le montage, peut-être rajouter quelques petites images, je vois un clocher à un moment, et puis c'est assez drôle quand on sait que le film s'appelle Un Pasteur. Il n'y a pourtant pas forcément de religiosité particulière en vérité, mais bon, une impression qu'on a nous en tant que spectateurs. Il y a ce moment de cauchemar à un moment que je comprends comme ça, et on a pu voir une apparition de loup, et puis petite araignée comme ça qui vient tisser sa toile. Les petits détails comme ça, tu les as captés sur le moment, ou c'est après coup que...
Non, je les ai captés sur le moment, parce que déjà quand je suis en tournage, je pense toujours beaucoup au montage. Et donc je suis toujours à l'affût de petits détails, de choses qui me tapent dans l'œil, ou de choses qui pourraient être en effet un peu symboliques, où je me dis, ah, on pourrait leur donner du sens au montage, ça serait beau. Et du coup, j'ai toujours ce réflexe en tournage, au-delà de filmer l'action et les personnages tout le temps, aussi de regarder autour et de collecter ces petites pastilles. Et après, bah, elles sont bien utiles au montage, ouais.
Pas beaucoup de récompenses pour le pasteur, je le disais. Quelques-unes pour le film, pour le réalisateur. Ça, c'est plutôt bienvenu, j'imagine. Un Grand Prix documentaire national à FIPADOC, par exemple.
Par exemple.
Et puis aussi un Grand Prix dans un festival en Corée. Mmh. Ça fait plaisir, c'est sûr. Ça a été quoi la réaction de Félix et des personnages du film? Est-ce qu'ils se sont aussi englobés dans cette récompense?
Alors... Pas vraiment, au sens où Félix, c'est le premier à avoir vu le film avec son père. J'ai privatisé un petit cinéma communal à côté de chez eux, dans un village qui s'appelle Salerne, et je les ai invités à voir le film. Et le film leur a plu, ça les a rendus assez fiers de ce qu'ils faisaient. Félix, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il pourrait toujours faire mieux, qui n'est jamais vraiment satisfait. Et en fait, le film lui a permis quand même de regarder 2 ans de sa vie en 1h10 et de se rendre compte que, bah, en fait, il assurait vachement. Et ça a eu peut-être une vertu un peu réparatrice en ce sens-là. Le film, pour lui, il m'a aussi dit quelque chose d'assez beau. Il m'a dit que je ne m'étais jamais rendu compte que c'était aussi beau les endroits où je travaillais, comme si cela avait aussi permis de ce pas de côté. Voilà, de mieux apprécier ce qu'il avait, ce qui l'entourait, quoi, de se détacher un peu parfois justement d'un stress, d'une volonté de toujours vouloir faire mieux, vouloir faire plus. Et mais après, il a jamais voulu venir avec moi accompagner le film dans des festivals, parce que il a beaucoup de travail d'abord, et parce qu'il a pas envie d'être trop le centre de l'attention, et que comme on voit dans le film que c'est quelqu'un de très réservé, dans la vie c'est aussi quelqu'un de très réservé, et donc il est content de l'avoir vu. Je crois qu'il est content que le film existe, mais voilà, il m'a laissé seul aller le présenter dans tous ces festivals. Mais bien sûr je les tiens au courant, et ils sont heureux que le film ait été primé. Ouais.
Pas sûr que ça donne des vocations pour devenir pasteur, le fait de voir le film, parce que c'est quand même dur, on comprend.
Alors,
bien.
On m'a souvent dit dans les projections qu'il y a des gens qui avaient toujours rêvé de le faire et qui y repensaient à deux fois après avoir vu le film. Ouais. Je me disais qu'ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était dur.
Mais ça donne l'occasion, quand on est loin de la montagne, de la voir, de voir ceux qui y travaillent, ceux qui y vivent, de voir aussi 4 petits agneaux trop mignons, mais ça, c'est forcément, ça va toucher tout le monde. Attention, il y a des scènes dures pour ceux qui sont trop fans des agneaux trop mignons, hein, quand même, il faut le dire. On sacrifie un petit peu à des images attendues, comme la tonte ou la mise bas, mais c'est pas forcément pour nous montrer les choses qu'on a déjà vues. Donc c'est à noter, je l'apprécie ça. Et on pourrait terminer, Louis, avec un extrait de la musique du film.
Composé par Julien Ribot, oui.
À nouveau, avec cette fois le générique de fin. Là, tu travailles sur un prochain film. Alors, bon, là, il y a l'accompagnement d'un pasteur ici pendant le mois du doc.
Tout à fait. Pour le rappeler, peut-être ici, donc le film est montré, il y a à peu près 20 projections qui sont prévues en Bretagne entre maintenant et le 26 novembre. Et vous pouvez retrouver toutes les dates des projections sur le site du mois du film documentaire, sur le site de Comptoir du Doc, de Cinécran ou encore de Tifilm, qui sont les 3 associations qui s'occupent de la diffusion du film en Bretagne.
Je vais donner quelques-uns des rendez-vous en Ille-et-Vilaine, mais tout de même, ce prochain film, il est encore trop tôt pour
mon prochain film. oui, donc je suis en train de travailler à un prochain film, en effet, et en effet, il est trop tôt pour en parler, parce que c'est vraiment le début. Mais voilà, j'ai déjà tourné, j'ai commencé à écrire, et je suis au tout début d'un autre film qui est le portrait d'un jeune homme exceptionnel, et c'est tout ce que je dirais.
Encore une fois, on peut dire, parce que c'était déjà le portrait d'un jeune homme exceptionnel, celui de Félix dans Un pasteur de Louis Anquet, notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis.
Merci.
Retrouvez le film à plusieurs reprises, notamment ce mercredi, dans quelques instants, à 18h15 au Tambour, sur le campus de Rennes 2, et puis pêle-mêle le 7 novembre à Verne-sur-Sèche, le 13 à Fougères, le 23 à Rault-sur-Couesnon, le 24 à Saint-Lunaire, le 25 à Rothier, et pour le complément des autres projections en Bretagne, vous irez faire un tour sur comptoirdudoc.org. Merci, Louis.
Merci. Thank you.
Plein les poches. Plein les poches, c'est la chronique Livre de poche par Soizig Le Bail sur Canal B.
Dans l'émission Le Grand Tout sur Canal B le mercredi, nous retrouvons Soizig Le Bail. Bonjour Soizig.
Bonjour Yann.
Qui nous parle bouquin. Pas des mêmes bouquins à chaque fois, bah non, hein, on change de livre forcément, mais on change aussi de registre. Aujourd'hui, dans Plein les poches, tu nous présenteras Les sources de Marie-Hélène Lafont parues au Livre de poche.
En 1967, elle a bientôt 30 ans. Trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, 7, 5 et 4 ans. Une grande maison, une belle ferme, 33 hectares. Un tracteur, une bonne, un vacher, un commis, le permis de conduire. Elle est mariée depuis 8 ans. Sur le papier, c'est une belle vie. Dans la réalité, c'est un calvaire. Elle n'y était pas préparée. Fille d'agriculteur, enfant choyé par ses parents et ses grands-parents, elle n'a pas été élevée à la dure, comme le sont souvent les petits dans cette région rurale où tout le monde travaille dur. Alors elle rumine, elle ravale les humiliations, la peur constante quand il est là. Son père l'avait prévenue : « Tu auras une belle ferme, mais je n'aime pas ton fiancé. Je n'aime pas comment il te regarde. » Mais elle s'est mariée quand même. Isabelle est née très vite, puis les deux autres. Trois césariennes, son ventre couturé, et lui qui dit « Tu ressembles plus à rien et tu pues. » Un dimanche, il déjeune chez ses parents, à elle, et retrouver cette atmosphère paisible, aimante, ses sœurs fiancées à des hommes gentils, elle craque. Elle montre ses bleus à sa mère, elle déballe tout. Et la peur nouvelle qu'il frappe bientôt les enfants qui ont grandi. Alors, ce dimanche-là, elle ne rentrera pas à la ferme. Elle reste chez ses parents, avec les enfants. Le récit est organisé en trois chapitres d'inégale longueur. Le deuxième se situe en 1974. 7 ans maintenant qu'elle est partie. Il rumine, lui aussi. Il ne dort pas beaucoup. Ils avaient acheté la ferme à deux. Elle en possédait la moitié. Il a fallu lui payer sa part. Il comprend pas qu'elle soit partie, cette chiffre molle bonne à rien. Ses vrais moments de bonheur à lui ont été son service militaire au Maroc. 27 mois là-bas, avec Suzanne. Il aurait pas dû revenir. Il aurait pas dû reprendre la ferme. 20 regrets. Et ses filles qui font sa fierté, elles sont bonnes à l'école, hein, elles feront des études. Le juge a ordonné 3 semaines de vacances à la ferme. Elles viennent chaque été, parlent peu, l'évitent. Gilles, lui, le garçon, il reste qu'une semaine et va tant mieux. Il ressemble trop à sa mère. Ah, il le voit bien. Et pourtant, il est réglo, hein, il paye sa pension alimentaire chaque mois. Mais sa colère est presque intacte. Il a tant donné, si peu reçu, pense-t-il. Le dernier court chapitre, en 2021, c'est Claire, l'aînée des filles. Elle est maintenant quinquagénaire. Elle revient à la source, dans cette ferme où elle a peu vécu, finalement. Elle fait le tour des bâtiments, se souvient, et tout à l'heure, chez le notaire, la ferme sera vendue sans regret. Donc ce roman en 3 actes décrit la vie dans une ferme, la solitude d'une femme qui subit la violence de son mari, dans ce pays où l'apparence compte, où il faut faire semblant. L'orgueil bloque les mots, dit l'auteur. Et le 2e acte qui présente le mari, sans jamais l'excuser pour autant, on comprend son incompréhension, son impuissance. Oublier le Maroc et Suzanne, sa femme idéale. Impuissance qu'il traduit en violence. Il sait désormais qu'aucun de ses enfants ne prendra la relève, tant d'efforts perdus, pour rien. Son regret d'avoir perdu ses filles, sa dureté envers son fils. Dans chacun de ses romans, Marie-Hélène Lafont explore cette terre, le Cantal, la vie rurale, la ferme, les descriptions de la nature, les odeurs, le rythme des journées au fil des saisons, ancre le texte dans la région. Et son écriture précise donne à voir et à sentir la vie à la ferme. J'avais envie de vous lire juste l'introduction, enfin le début du 1er chapitre, pour que vous entendiez sa voix. Il dort sur le banc, elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les 2 portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée. Elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté, on pourra rire et parler fort. Il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus.
Des femmes qui ne manquent pas de courage,
oui,
l'impression
voilà.
Dans ce roman Les Sources, Marie-Hélène Lafont, au livre de poche. Merci beaucoup Soizig, à très bientôt, toujours dans Le Grand Tour sur Canal B.
À bientôt.
Les poches, c'est la chronique Livre de poche par Soizig Le Bail sur Canal B.
On va s'en mettre plein les poches.
L'illustration musicale de cette nouvelle chronique Plein les poches, la 54e du nom par Soizig Le Bail, eh bien c'était Carly Blackman et le titre Beverly Farms. Dans la session Info Concert aujourd'hui, j'ai déjà évoqué l'événement il y a quelques semaines, mais j'y reviens à ce très chouette cool thing de soirée à ne manquer sous aucun prétexte les 15 et 16 novembre prochains. Ce sera à l'Antipode où vous retrouverez eh bien, le meilleur de l'indie rock mondial d'Espagne en Californie, en passant par l'Angleterre et aussi évidemment par Rennes. Vous saurez tout sur les concerts de Enola Gay, de Tapir, de Knives ainsi que Totoro. On commence donc la session info concert avec l'un des artistes de cette soirée du 15 novembre. C'est un groupe nord-irlandais, c'est Enola Gay, ils viennent de Belfast. Vous les avez peut-être déjà croisés avec un post-punk vraiment furibard. On les écoute avec ce titre Leeches. Vous les verrez le 15 novembre en compagnie de Lisa Lisa et Marvina pour un DJ set et puis de Mélénas, Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp ainsi que Tapir qu'on écoutera juste après, mais pour l'instant, Enola Gay. We'll be right back. Vous entendiez à l'instant les Anglais de Tapir qu'on accole à une étiquette indie folk. Peut-être c'est un peu simple finalement de les voir comme seulement un groupe indie folk. Vous les découvrez en tout cas, ces six musiciens, le 15 novembre à l'Antipode dans le cadre de la première soirée de ce très chouette événement Cool Things. Le lendemain, samedi 16 novembre, eh bien ce sera un DJ set de Artificiel que vous avez sans doute croisé au sein des Psychotic Monks, et puis vous retrouverez aussi Crows et puis Dummy. Crows, vous les connaissez, un groupe anglais post-punk encensé par Joe Talbot des Idols. Dummy, les Américains déjà vus par ici dans un concert proposé par des Pichikai, et puis Knives, ils sont anglais eux aussi, et eux aiment à teinter leur post-punk de quelques rasade noise. On écoute tout d'abord un extrait de cette programmation Knives, et puis juste après ce seront les Rennais de Totoro. Totoro qui donneront eh bien, un album qui a 10 ans, Home Alone. Ils le rejoueront. Retrouvailles fixées donc à l'Antipode le 16 novembre. On écoute Knives, puis Totoro.
see eye to eye. Says to himself he lives a lie. We do not see eye to eye. We do not see eye to eye. Huh! Doppelganger.
C'était Totoro à l'instant dans l'émission Le Grand Tout sur Canal B avec le titre Tonton Alain Michel. Vous retrouverez le groupe Rennais rejouer l'album Home Alone d'il y a 10 ans et vous les retrouverez en compagnie de toute une belle escouade de groupes indie rock, indie noise du monde entier pour la deuxième soirée de ce Cool Thing les 15 et 16 novembre. Toutes les infos sur antipode-rennes.fr. Nous on termine Le Grand Tout avec les deux albums coup de cœur et découvertes pour les radios de la Ferra Rock cette semaine. Tout d'abord, un duo entre chansons et musique électronique très pointu, mais qui ne fait pas mal. Il s'appelle Oh Oh, et vous entendrez le jour et la nuit dans quelques secondes. Et puis ensuite de ça, ce sera la rencontre entre soul, blues rocailleux et musique d'obédience jamaïcaine avec Kiddus Eye, Baz Baz et Chicky Shakespeare. C'est extrait de leur album The Salmon, album à gagner cette semaine sur canalb.fr. Toutes les infos autour de ces deux albums sur ferrarock.org. Nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission Le Grand Tout. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
La lumière se dissout, soudain le crépuscule, mais le jour à genoux et cet instant bascule. La nuit est cupide, intontable et songeuse, elle s'évapore comme l'eau. Songeuse, la lumière se dissout, soudain le crépuscule, mais le jour à genoux, et cet instant bascule. La nuit est cupide, intontable et songeuse, elle s'évapore comme l'eau.
Shakespeare, who said that life is a stage and we are all players on the stage. But that's true, we're all players on the stage of life. But we need to learn to play the game of life fair. I just wanna thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you for the blessings I receive each day, for the health and the strength always sufficient for my needs. So I just wanna thank you.
thank you, thank you, thank you, thank you. At times on my knees I pray, yes. In my meditations along life's way, yeah, I say a prayer of thanks, knowing you are there to guide me through the paths of life, oh yeah. I see your blessings every day, yeah. I see the sun shining for us all along life's way, always shining, always giving, giving to all mankind, I say. At times on my knees I pray, hey, and in my meditations along life's way I say a prayer of thanks to you. No, you're there for me to guide me through the paths of life I walk. I see your blessings shining every day. They say life's a state, I and I are merely players. So let's play together now. Let's play together now in peace and harmony.